franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui, 40 ans après, la mort du général de Gaulle.
Ce qui est à redouter quand de Gaulle aura disparu, à mon sens, après l'événement dont je parle, ce n'est pas le vide politique, c'est plutôt le trop-plein. Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.
D'histoire, Patrice Gélinet.
Le 15 mai 1962, parlant de lui à la troisième personne, le général de Gaulle faisait rire les journalistes en évoquant les conséquences de sa disparition. Mais ce jour-là, à l'Élysée, ni lui ni personne n'imaginait dans quelles circonstances elle se produirait, 8 ans plus tard, dans sa maison de Colombey-les-Deux-Églises, où de Gaulle s'était retiré après l'échec du référendum du 27 avril 1969. C'est là que, coupé du monde, l'homme qui a le plus profondément marqué l'histoire de la France au XXe siècle a vécu dans la solitude les derniers mois de sa vie. Jusqu'au 9 novembre 1970, ce jour-là, à 19h, l'ancien président de la République était terrassé par une rupture d'anévrisme. Mais les Français n'ont appris la nouvelle que le lendemain. France Inter, Jean-Claude Bourret, le 10 novembre 1970.
Le général de Gaulle est mort hier soir subitement à Colombey-les-Deux-Églises à 19h30. Dans l'après-midi, il s'était promené dans le jardin de sa maison. Puis, comme d'habitude, il s'était mis au travail, la rédaction du tome 2 de ses Mémoires d'espoir. C'est en faisant une réussite, en attendant l'heure du journal télévisé, que le général de Gaulle a été pris d'un malaise et s'est effondré sur la table qui était devant lui.
Devant le portail de l'Élysée, il y a depuis ce matin un petit groupe d'hommes et de femmes. Et j'en ai vu quelques-uns en larmes. J'ai vu notamment un tout jeune homme en larmes. Quel âge avez-vous, monsieur ?
23 ans. Mais je suis lié au général depuis 1958 et mes parents l'étaient depuis la Libération.
Qui êtes-vous, monsieur ?
Je suis un gaulliste comme beaucoup. Toute ma vie, j'ai mis ma vie et ma jeunesse dans le général de Gaulle.
François Broche, bonjour.
Bonjour.
C'était il y a 40 ans l'émotion d'un jeune homme bouleversé par la disparition du général de Gaulle. Une émotion partagée ce jour-là par des millions de Français de tous âges, de toutes conditions, y compris ceux qui l'avaient combattu. C'est ce que vous rappelez dans un livre, Le dernier jour du général de Gaulle. Pour la première fois de sa vie, dites-vous, de Gaulle faisait l'unanimité.
Oui, ce qui est d'autant plus extraordinaire qu'il avait quitté le pouvoir depuis un an et demi. Il était donc retiré à Colombey où il écrivait tranquillement ses mémoires. Et on aurait pu penser que sa disparition éventuelle n'aurait pas suscité un pareil choc. Mais ce choc s'explique par le fait, enfin c'est mon interprétation du personnage, que de Gaulle est à la fois un homme politique qui a rempli son siècle et son pays, et en même temps une légende vivante, je dirais, pour me condenser cette pensée, un homme légende à la fois. Et c'est au moment de sa disparition, ce n'est pas l'homme politique qui prend le dessus, c'est surtout la légende, cette légende héroïque, épique, qui a fait rêver tout un peuple et qui va continuer, bien après sa mort, puisque nous sommes 40 ans après, on en parle toujours, à faire jaser, parler, rêver les Français.
Parce que ce jour-là, le jour où on annonce sa mort, le 10 mai, le lendemain de sa mort qui était la veille, et puis on entend des adversaires de toujours, François Mitterrand, Georges Marchais, le patron du Parti communiste, lui rend hommage alors qu'il l'avait combattu.
Pierre Mendès France, notamment l'hommage de Mendès France est assez remarquable. Parce qu'il l'a, alors qu'il a été un compagnon de Gaulle dans la France libre, alors qu'il a été son ministre à la Libération, il l'a farouchement combattu après la guerre et notamment à partir de mai 58 en l'accusant du pire crime pour un homme politique, c'est-à-dire de fomenter un coup d'État et de l'avoir réussi. Alors que de Gaulle, c'est peut-être un autre sujet. Mais Mendès France, dans le superbe éloge funèbre qu'il lui consacre, rend hommage justement passe très rapidement sur les reproches qu'il fait à De Gaulle et rend hommage à la trace que De Gaulle a laissée dans l'histoire de France et qui est inaltérable.
Et un homme dont les Français ont entendu la voix pour la dernière fois lorsqu'à la télévision, il leur demandait de voter oui à un référendum sur la réforme du Sénat et des régions le 27 avril 1969.
Françaises, Français, si je suis désavoué dimanche par une majorité d'entre vous, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions.
Nous avons maintenant des statistiques qui portent sur 7 259 101 inscrits. Je vous donne tout de suite le pourcentage du oui et du non, car maintenant c'est ce qui importe. Oui, 49,27%, non, 50,73%.
La séance est ouverte. Le texte de la décision prise ce jour par le général de Gaulle est ainsi libellé. 28 avril 1969, je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi, signé Charles de Gaulle.
La voix drôle de voix, profonde et saccadée, la voix qu'on écoutait tout bas, les portes bien fermées, la voix qui racontait une France à ton goût, moi. Quand elle va se taire, je te parie sans sou que tu le regretteras.
Et c'était Gilbert Bécaud en 1965, 4 ans avant donc ce référendum, qui allait provoquer le départ de De Gaulle alors que rien ne l'y obligeait, François Broche. La Constitution ne prévoit pas qu'en cas de référendum négatif, le président soit obligé de s'en aller.
Non, rien n'obligeait De Gaulle déjà à faire ce référendum et rien n'obligeait à partir sur un résultat négatif. On l'a vu d'ailleurs dans la suite de la pratique présidentielle, quand Jacques Chirac a perdu le référendum de 2005.
Il est resté.
C'est bon. Ce qui explique le référendum, la nécessité de ce référendum, c'est que De Gaulle a été tout de même sérieusement ébranlé par les événements de mai 68. Il a repris le dessus par une opération de politique extrêmement brillante, mais un petit peu improvisée. Il a gagné les élections législatives, mais il a été durablement ébranlé et il a été une nouvelle fois au début de l'année 69 ébranlé par la candidature annoncée de Georges Pompidou à l'Élysée au cas où De Gaulle ne serait plus là. Donc il lui a fallu renforcer à nouveau sa légitimité.
La tentation du départ, vous y consacrez tout un chapitre, il l'a eu souvent, cette tentation. Il est d'ailleurs vraiment parti en 1946, lorsqu'il a senti contre lui l'hostilité des politiciens, alors qu'il était chef du gouvernement français. En 65, il a même failli partir alors qu'il était en ballottage favorable, mais il pensait être élu au premier tour de l'élection présidentielle de 65. En 68, il s'en va à Baden, j'ai songé à m'en aller, dit-il. C'est quelque chose de curieux de la part d'un homme qu'on a accusé d'autre part d'être un dictateur.
Oui, ça montre bien qu'il n'était pas décidé à s'accrocher au pouvoir coûte que coûte. Il l'a eu sans arrêt pendant la guerre, dans ses bras de fer avec Churchill. Il a agité plusieurs fois la menace de partir et il est effectivement provisoirement parti, notamment lorsque les Anglais voulaient dresser contre lui la candidature de l'amiral Muselier à la direction de la France libre. Je crois que ce n'est pas un signe de faiblesse ou de lâcheté quelconque, mais c'est un signe de... De Gaulle est un stratège à la fois politique et militaire, et lorsqu'il ne sent plus la situation, lorsque les choses lui échappent, il a ce que dit d'ailleurs le grand savant Henri Laborie, le grand physiologiste Henri Laborie dans son éloge de la fuite, il a cette tentation, cette volonté de pratiquer une fuite créatrice. Il se retire provisoirement, il observe et puis il voit si les circonstances se prêtent à un retour. Alors, c'est ce qu'il a fait toute sa vie depuis 1940.
En 69, il quitte définitivement le pouvoir, bien décidé à ne plus du tout intervenir revenir. Il se réfugie dans sa maison de Colombey-les-Deux-Églises à la Boisserie, et là il ne verra pratiquement plus personne, refusant d'ailleurs d'intervenir dans la vie politique. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons.
Sauf tout de même, lorsque Georges Pompidou se déclare candidat, de Gaulle soutient sa candidature, lui écrit, lui annonce, lui dit très explicitement qu'il souhaite son succès. Et lorsque Pompidou est élu, il le félicite, tout ça, sans chaleur excessive. Mais lorsque l'amiral Floïc, son aide de camp, lui dira, lors de leur voyage en Irlande, je crois, que peut-être est-il préférable qu'Alain Poher soit élu pour que les choses soient rebâties.
Alain Poher, qui était président par intérim, puisqu'il était président du Sénat en attendant les élections qui devaient suivre.
Principaux leaders anti-gaullistes. Et de Gaulle lui dit non, tout de même pas.
Alors cela dit, n'empêche, vous venez de le dire, François Broche, au moment où ont lieu les élections présidentielles qui suivent le départ du général de Gaulle, eh bien celui-ci fait un des très rares voyages qu'il fera à l'étranger. Après son départ du pouvoir, c'était en Irlande. Serge Romanski de l'AFP au micro de France Inter le 24 mai 1969.
L'isolement et le calme dont souhaitait s'entourer le général de Gaulle en se rendant en Irlande, il ne paraît pas douteux qu'il les a trouvés à Cashel Bay. L'endroit est en effet particulièrement désert et le climat y est rude. Le décor, c'est un peu celui du bout du monde. D'un côté la mer, de l'autre une lande solitaire et rocailleuse balayée par le vent du large. Nul havre de solitude ne pouvait être mieux choisi pour une méditation silencieuse. Enfin délivré des gêneurs, volontaires ou involontaires, à l'abri de tout regard indiscret et surtout de l'œil inquisiteur des appareils de photos et des caméras, le général en a profité cet après-midi pour aller faire une promenade d'une demi-heure environ sur une petite route de montagne au bras de Madame de Gaulle et en compagnie de son aide de camp, le commandant Floyd.
2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet.
Et c'était en 1969, en mai 69, de Gaulle en Irlande. On connaît cette photo de de Gaulle se promenant sur la plage avec Madame de Gaulle et le commandant futur amiral Floïc. On le voit aussi d'ailleurs sur la couverture de votre livre, François Broche, de Gaulle en Irlande, dans la solitude. Il y va pour quelle raison? C'est pour échapper justement aux journalistes, qui le harcèlent?
Il y va d'abord parce qu'il ne veut pas se trouver en France le 18 juin. 1969, et cela deviendra une habitude.
Anniversaire, oui.
Voilà, c'est l'anniversaire de l'appel qui est pour lui la grande date fondatrice de son aventure, et il ne veut surtout pas être mêlé aux commémorations officielles de ce jour-là. Il y va pour satisfaire ensuite une vieille curiosité qu'il a eue depuis toujours, parce que, vous savez, comme il l'avait dit lui-même, il avait des ancêtres irlandais. Notamment dans le village de Killarney, du côté de sa mère. Et il a toujours eu envie de faire la connaissance de cette ancienne patrie. Et puis il y va aussi pour rencontrer le président Eamon de Valera, dont on dit qu'il est le De Gaulle irlandais, et qui a animé la résistance à l'oppression britannique. Donc il a un ensemble de raisons qui le poussent à y aller.
Et pour éviter peut-être aussi d'avoir publiquement à prendre parti dans l'élection présidentielle qui verra la victoire de Georges Pompidou. Ce voyage n'a pas été discuté. Il y en a un deuxième qu'il fera un an plus tard, beaucoup plus critiquable. C'est son voyage en Espagne. C'est l'Espagne de Franco, évidemment. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas auprès de ce dictateur?
Alors, il avait conscience de ce reproche. Il s'en moquait un peu en disant que ce voyage allait faire jaser dans les salons parisiens. Mais il n'y va pas. Il va aussi en Espagne pour diverses raisons. Et bon, il va rencontrer Franco, c'est inévitable. Ce n'est pas à ses yeux uniquement le dictateur qui a accédé au pouvoir après l'horrible massacre de la guerre civile espagnole. C'est également l'homme qui a tout de même résisté aux exigences hitlériennes en 1940 lors de l'entrevue de Handaï. Mais il n'y va pas principalement pour rencontrer Franco. Il y va pour aller dans le pays de Charles Quint.
Charles Quint qui avait fait comme lui, qui avait quitté le pouvoir.
Il y va parce que l'Espagne a occupé une place immense dans l'histoire, et il y va pour visiter les hauts lieux espagnols, la Alhambra de Grenade, la Giralda de Séville, l'Alcazar de Tolède. Il y va pour pour satisfaire une curiosité bien légitime. D'ailleurs, l'entrevue avec Franco sera totalement décevante parce que Franco, moins âgé que lui, était très malade à l'époque. Il était pratiquement pas végétatif, mais enfin totalement incapable d'assurer un entretien.
Après quoi, de Gaulle retourne à Colombey, où il ne reçoit que quelques fidèles, et puis sa famille, le général de Boissieu, son gendre, ou encore son fils, l'amiral de Gaulle.
Son rythme de vie était toujours à peu près le même. Il était réveillé apparemment, car je n'ai jamais pénétré dans la chambre de mes parents. Et vers 7h30, 8h, et là, il lisait tout de suite la presse qu'il s'était fait apporter de Bar-sur-Aube, qui était à 11 km, avec le premier train du matin. Il descendait 1h30 après, ayant parcouru très vite la presse, et il commençait un tour de jardin, quel que soit le temps. Et là, il se mettait au travail d'autant plus vite qu'il était pressé d'écrire ses mémoires. Sa préoccupation était de ne pas avoir le temps de les écrire. C'était un petit peu un leitmotiv.
Alors ces mémoires, ce sont les mémoires d'espoir, la suite au fond des mémoires de guerre, François Broche, commencé en Irlande, justement, en 1969, une tâche sacrée, dites-vous. Il est très préoccupé par la volonté de terminer ses mémoires, c'est-à-dire là où se termine sa carrière politique. Or, ça n'a pas été le cas.
Hélas, ça n'a pas été le cas, non. Il laissera un premier tome paraîtra de son vivant, quelques semaines avant sa mort. Et puis le second tome sera posthume et incomplet. Mais je crois que le projet des mémoires est quelque chose qui va le maintenir en vie pendant les 18 mois de sa retraite. C'est quelque chose, c'est d'ailleurs son plus proche collaborateur, le préfet Pierre-Louis Blanc, qui dira que je crois que l'écrivain à ce moment-là a sauvé l'homme de ce qui aurait pu être un naufrage. De Gaulle, en effet, aurait pu se laisser aller à l'amertume, à l'aigreur, au désespoir pendant ces mois de retraite. Et il s'est attelé à un grand projet. Il voulait faire de nouveaux mémoires de guerre. Il voulait inscrire la Ve République, ces 10 années de retour au pouvoir, à nouveau dans l'histoire de France, comme il l'avait fait avec les mémoires de guerre.
Et alors, il craint de ne pas pouvoir les achever avant sa mort, très préoccupé, vous le dites, par la mort. Il l'a d'ailleurs toujours été, François Broche.
Oui, il aurait pu faire la formule de Churchill dans son grand discours d'octobre 1940, « La mort et la douleur seront nos compagnes de voyage ». Il a été, en tant que soldat de carrière et ayant pris part à la Première Guerre mondiale, il a vécu dans la familiarité de la mort depuis toujours. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a mené également une vie un peu mouvementée, notamment lors de ses voyages en Afrique et au Moyen-Orient, où il a à 2 ou 3 reprises côtoyé une mort accidentelle en avion. Il a, après son retour au pouvoir, été victime, vous le savez, de nombreux complots visant à l'assassiner. Il est familier de la mort.
L'attentat du petit Clamart en 1962, où il a échappé très peu. Oui.
Voilà. Et il est familier aussi, enfin, il a beaucoup souffert de la mort de ses proches, de compagnons, et il a été toute sa vie, enfin, pendant les 20 années où elle a vécu, toute sa vie au contact de sa fille Anne, qui était trisomique et dont la mort l'a totalement bouleversé en 1948.
Il craint moins la mort, en fait, que la déchéance psychologique. Il est hanté par cette phrase, d'ailleurs, qu'il avait prononcée en pensant au maréchal Pétain, « La vieillesse se naufrage, il ne veut pas être un naufragé ».
La vieillesse est un naufrage. Alors, c'est une petite phrase qu'il aurait, semble-t-il, empruntée à Louis XIV ou peut-être même à Chateaubriand et qui a fait le tour du monde. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette phrase est un peu un cliché, en tout cas une vérité un peu prud'homèse. C'est vrai que la vieillesse est un affaiblissement des capacités physiques et intellectuelles, mais De Gaulle lui a donné en quelque sorte ses lettres de noblesse et c'est vrai qu'il a été. Il l'a observé chez le maréchal Pétain, dont il avait été autrefois un proche collaborateur. Et il l'observe surtout chez lui. Il a peur de perdre la mémoire. La perte de mémoire lui apparaît comme un signe de décrépitude. C'est pourquoi il apprendra par cœur tous ses discours. Il n'en lira jamais aucun. Il apprenait tous ses
qu'il
discours.
Écrivait lui-même, hein, il faut le rappeler, ce qui n'est pas le cas de ses successeurs.
Et il a, durant toute la traversée du désert, après son départ en 1946, il a la hantise, il est à peu près persuadé, il a la certitude qu'il va revenir au pouvoir, parce que la 4e République lui apparaît un système désastreux qui conduit la France à l'abîme, mais il a la hantise d'y revenir trop vieux. Mmh. Et c'est ce qui va se passer. Il est revenu trop vieux, il avait entre 67 et 68 ans.
Et pourtant, plutôt en bonne santé. Voilà un personnage qui, jusqu'à la veille de sa mort, n'a pas pris un médicament pratiquement. C'est un homme solide. On l'entendait dans les témoignages de l'amiral de Gaulle, un homme qui se promenait régulièrement et qui n'a pas eu donné le sentiment du tout d'être fragile. Il a eu quelques pépins de santé, quelques opérations, c'était la cataracte, c'était la prostate, mais en fait, c'est un homme plutôt en bonne santé à Colombey.
Une crise de paludisme pendant la guerre qu'il a laissé vraiment très très affaibli, dont il a été sauvé par son médecin personnel, le docteur Lischwitz. C'est vrai qu'il avait en plus un très bon coup de fourchette qui inquiétait beaucoup Madame de Gaulle, qui surveillait son alimentation. Mais il était suivi. C'était quand même une carcasse assez solide qui avait une fâcheuse tendance à prendre pas mal d'embonpoint dans les 10 dernières années. Mais il était quand même suivi, notamment sur le plan cardiaque. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir de sa retraite, à partir de 1969, il cesse d'être suivi. Et c'est là où sa santé va se dégrader imperceptiblement. Il y a des signes. Les proches voient, par exemple, je crois que c'est l'amiral de Gaulle qui observe les chevilles qui gonflent, ce qui est un signe de mauvaise circulation, ce qui devrait alerter. Mais une pâleur, une certaine pâleur qu'on peut mettre sur le compte du froid. Donc il y a des signes, mais auxquels lui-même ne veut accorder aucune importance. L'amiral de Gaulle dit que dans la pharmacie de Colombey, il n'y avait que de la teinture d'iode pour les genoux couronnés des petits-enfants lorsqu'ils jouaient dans le parc.
D'où la surprise donc que provoque sa mort, y compris d'ailleurs pour ses proches, lorsque le 9 novembre à 19h, 9 novembre 1970 à 19h, de Gaulle est victime d'une rupture d'anévrisme à la fin d'une journée comme les autres. On écoute un des rares témoins de sa disparition, sa femme de chambre, Charlotte Marshall.
Il avait travaillé dans son livre, comme d'habitude. Et à 7 heures même, madame était dans la cuisine. Il est venu lui demander les adresses pour tous ceux qui lui avaient écrit pour sa fête. Et il a encore mis les adresses sur les lettres qu'il avait écrites. Et c'est après, il vient à sa table de jeu, il ouvre son jeu de cartes. Tout d'un coup, il dit « Oh, quelle souffrance !» Et puis, il s'appuie comme ça sur son fauteuil. Et elle a vu qu'il n'a plus rien dit. Il n'a plus parlé, mais elle a vu qu'il souffrait beaucoup. Alors vite, il est venu m'appeler que je téléphone. Alors justement, le docteur n'était pas loin. Et il est arrivé tout de suite. Et elle me dit en même temps, téléphonez à M. le curé. Et ils sont arrivés tous en même temps. Le docteur a dit, oh, c'est très grave. Il dit, c'est une rupture d'anévrisme. Il lui a donné une piqûre pour qu'il souffre moins. Puis un quart d'heure après, il était mort.
Et c'était Charlotte Marshall, donc la femme de chambre du général de Gaulle à Colombey, un des seuls témoins avec Madame de Gaulle.
Il y avait, oui, c'est ça, trois témoins, Madame de Gaulle, Charlotte et Honorine, la cuisinière. Elles étaient là ce jour-là.
Vous en parlez longuement de cette disparition, des circonstances exactes de cette disparition du 9 novembre, avec un sang-froid extraordinaire de la part de Madame de Gaulle.
On a l'impression que Madame de Gaulle s'y attendait, qu'elle était résignée, peut-être pas ce jour-là. On espérait, de Gaulle lui-même espérait arriver jusqu'à son 80e anniversaire, le 22 novembre suivant. Mais c'est l'automne, c'est une saison qui n'est pas très favorable aux vieillards, dit-on. Mais c'est vrai qu'elle fait preuve d'un sang-froid extraordinaire. Son souci, à ce moment-là précis, c'est que de ne pas diffuser la nouvelle, de prévenir déjà tous les proches, et notamment sa fille, son gendre, et puis Philippe de Gaulle, qui ne se trouve pas à Colombey, qui était à Colombey quelques jours plus tôt pour la Toussaint, mais qui en était reparti. Donc il fallait surtout garder le plus grand secret pour que Philippe de Gaulle et le général de Boissieu et son épouse n'apprennent pas la nouvelle par la presse, par les journaux.
Il y a aussi quelqu'un qui est prévenu, on l'a entendu, c'est le curé pour l'extrême onction. Vous évoquez longuement le catholicisme du général de Gaulle, François Broche.
Le général de Gaulle a été élevé dans une tradition catholique de stricte obédience. Il était un croyant, il était pratiquant. La nature de sa foi demeure, dans une certaine mesure, une énigme.
On pourrait dire. Il allait à la messe, il était pratiquant.
Il allait à la messe, il était pratiquant. Il communiait,
mais
pas en public.
Mais très soucieux de la laïcité, dites-vous quand
très
même.
Très soucieux de la laïcité, ouais. Puisqu'il était le chef d'un État laïque. Mais disons que, pour en revenir à Dieu, à l'existence de Dieu, qui est le fondement de la religion, il se faisait une certaine idée de Dieu, comme il se faisait une certaine idée de la France. France. Oui. Il avait envie de rendre... Il n'était pas très sûr, certainement. Bon, il avait d'un côté la foi du charbonnier, il voulait croire comme on l'avait habitué à croire, mais d'un autre côté, il n'était pas très sûr de l'existence de Dieu, et en tout cas, il ne voulait rendre compte qu'à Dieu directement s'il existait.
D'où donc cette visite du curé qui a assisté au dernier moment.
Le curé et le médecin arrivent pratiquement en même temps.
Hein. Et cela avant que la nouvelle, qui a été gardée secrète pendant 14 heures, soit révélée le lendemain par la presse et par le président de la République, Georges Pompidou.
Française, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. En 1940, de Gaulle a sauvé l'honneur. En 1944, il nous a conduits à la libération et à la victoire. En 1958, il nous a épargné la guerre civile. Il a donné à la France actuelle ses institutions, son indépendance, sa place dans le monde. En cette heure de deuil pour la patrie, inclinons-nous devant la douleur de Madame de Gaulle, de ses enfants, de ses petits-enfants. Mesurons les devoirs que nous impose la reconnaissance. Promettons à la France de n'être pas indigne des leçons qui nous ont été dispensées. Et que, dans l'âme nationale, de Gaulle vive éternellement.
Et c'était Georges Pompidou, donc le 10 novembre 1970, s'efforçant, dites-vous, avec une touchante conviction, d'entrer dans la peau de l'aîné des orphelins. Alors que de Gaulle, il faut le rappeler, avait refusé de le voir quand même depuis son départ en 1969.
Il avait refusé de le voir parce que bon, il ne voulait pas donner l'impression d'intervenir dans la vie politique. Et puis il y avait quand même... Il avait des sentiments nuancés à l'égard de son successeur. Mais encore une fois, je le répète, il avait encouragé sa candidature et il l'avait félicité d'avoir été élu.
En tout cas, de Gaulle, dans ses dernières volontés, refusait les obsèques nationales, voulait absolument être enterré à Colombey, ce qui s'est produit donc le 12 novembre, alors qu'il y avait eu une messe le matin solennelle à Notre-Dame, en compagnie d'ailleurs de quantité de chefs d'État étrangers. Votre livre se termine, vous dites que commence alors un destin posthume, mais votre livre se termine par une phrase très célèbre, une des dernières phrases, je crois, des mémoires de guerre, puisque tout recommence toujours, ce que j'ai fait sera tôt ou tard, source d'ardeur nouvelle, après que j'aurai disparu. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? Et est-ce que c'est encore une source d'ardeur nouvelle, le gaullisme et de Gaulle?
Mais je crois qu'il est incontestable qu'on peut le dire. De Gaulle continue à être une référence, non pas dans le monde politique stricto sensu. Il n'y a pas de formation, à proprement dit, qui se réclame du gaullisme. Le gaullisme politique, on a dit qu'il est mort. Bon, disons qu'on l'a enterré.
De Gaulle lui-même n'y croyait pas beaucoup.
Voilà, De Gaulle n'y croyait pas. D'ailleurs, le mot gaulliste ne lui convenait pas, ne lui plaisait pas. Mais disons que le gaullisme politiquement est mort, mais il continue d'être une référence historique et morale. On le voit chaque jour. Je vous signale que dans quelques jours, l'actuel chef de l'État va prononcer un grand discours à Colombey les deux églises.
On peut dire que tous ses successeurs, ou même ses anciens adversaires qui lui ont rendu hommage, c'est un peu de la récupération, à moins que ce soit cette formule aussi, tout le monde est, a été ou sera gaulliste.
Oui, c'est sûr, il y a de la récupération là-dedans, mais après tout, c'est l'hommage rendu par le vice à la vertu. Songez que tous les candidats à l'élection présidentielle de 2007 se sont référés peu ou prou au général de Gaulle. Et n'oublions pas que de Gaulle est, d'après plusieurs enquêtes d'opinion qui ont été faites, reste le Français le plus illustre de l'histoire de France.
Merci François Broche. Je rappelle que vous avez publié aux éditions de l'Archipel « Le dernier jour du général de Gaulle ». Un livre que je recommande chaleureusement. À lire aussi « Charles de Gaulle, une certaine idée de la France », un hors-série du Monde, en partenariat avec France Inter et la Fondation Charles de Gaulle. Je signale la diffusion aussi du 7 au 9 novembre sur la chaîne Histoire d'un grand cycle documentaire intitulé « La légende de Gaulle ». Toutes ces références ainsi que beaucoup d'autres sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Ludovic Asselot, documentation et archives, Camille Pouc-Gélaguier, Frédéric Martin et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. La semaine prochaine, 2000 ans d'histoire prend un peu de repos, mais ne vous quitte pas pour autant, puisque nous vous proposons 5 rediffusions. Lundi, quand Bonaparte est devenu Napoléon, avec Dominique de Villepin. Mardi, la caricature. Mercredi, D'Artagnan. Jeudi, à l'occasion du 11 novembre, l'offensive Nivelle et les mutineries de 1917. Et enfin, vendredi, la controverse de Valladolid. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.